Chapitre 13. L'envoi des espions en Canaan. L'origine de cet envoi. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous les princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Versets 2 à 4. Pour comprendre entièrement ce commandement, nous devons le rapprocher d'un passage du Deutéronome où Moïse, repassant les faits de l'histoire d'Israël dans le désert, leur rappelle cette circonstance importante. « Et nous sommes partis d'Horeb et nous avons traversé tout ce grand et terrible désert que vous avez vu, le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait commandé. Et nous sommes venus jusqu'à Kadès-Barnéa, et je vous ai dit, « Vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, laquelle l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, a mis devant toi le pays. Monte, prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et ne t'effraye point. Et vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, « Envoyons des hommes devant nous et ils examineront le pays pour nous. Et ils nous rapporteront des nouvelles. » Du chemin par lequel nous pourrons monter et des villes auxquelles nous viendrons. Deutéronome 1, versets 19 à 22. Nous avons ici l'origine morale de l'épisode exposé en Nombre 13, verset 3. Nous voyons que l'Éternel donna le commandement concernant les espions à cause de la condition morale du peuple. S'ils avaient été conduits par la foi, ils auraient agi d'après les paroles de Moïse rappelées ici. Regarde, l'Éternel ton Dieu a mis devant toi le pays. Monte, prends possession, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et ne t'effraye point. Il n'y a pas un seul mot concernant les espions dans ce magnifique passage. La foi a-t-elle besoin d'espions quand elle a la parole et la présence du Dieu vivant? Puisque l'Éternel leur avait donné un pays, il valait la peine d'en prendre possession. Et non seulement il l'avait donné, mais il avait rendu témoignage à la nature et au caractère de ce pays. Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde, qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel, un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Deutéronome 8, versets 7 à 9. Tout ceci n'aurait-il pas dû suffire à Israël? N'aurait-il pas dû être satisfait du témoignage de Dieu? N'avait-il pas examiné le pays pour eux? Et tout ce qu'il leur avait dit à ce sujet, n'était-ce pas assez? À quoi bon envoyer des hommes pour explorer le pays? Dieu n'avait-il pas, dans ses conseils éternels, choisi ce pays pour la semence d'Abraham, son ami, et ne le lui avait-il pas destiné? Ne connaissait-il pas toutes les difficultés et ne pouvait-il pas les surmonter? Pourquoi donc les fils d'Israël se sont-ils tous approchés et ont-ils dit « Envoyons des hommes devant nous, et ils examineront le pays pour nous et ils nous rapporteront des nouvelles ?» Ah, ces questions s'adressent justement à nos cœurs. Elles nous dévoilent l'état où nous sommes. Il nous sied mal de critiquer froidement le comportement d'Israël dans le désert, de montrer ici une erreur, là une chute. Toutes ces choses sont placées devant nous pour notre instruction. Elles sont là comme des phares pour nous détourner des écueils qui se trouvent le long de notre traversée et menacent notre sécurité. On pourrait soulever la question, mais n'est-ce pas l'Éternel qui commande à Moïse d'envoyer des espions? Il est vrai qu'en Nombre 13, l'Éternel dit à Moïse d'envoyer des espions, mais c'était une conséquence de l'état moral du peuple, comme cela est démontré par le premier chapitre du Deutéronome. Nous voyons très distinctement là que l'idée d'envoyer des espions avait pris naissance dans le cœur d'Israël. Dieu vit leur condition morale et donna un commandement en accord avec cette condition. Dans le premier livre de Samuel, on trouve quelque chose de semblable lors de l'affaire de l'établissement d'un roi. L'Éternel commanda à Samuel d'écouter la voix du peuple et de leur donner un roi. 1 Samuel 8, verset 22. Était-ce parce qu'il approuvait leur dessein? Pas du tout. Au contraire, Il déclara clairement que leur demande équivalait à le rejeter lui-même. Pourquoi donc enjoint-il à Samuel d'établir un roi? L'ordre fut donné à cause de la condition d'Israël. Ils étaient fatigués de dépendre entièrement d'un bras invisible et soupiraient après un bras de chair. Ils désiraient ressembler aux nations qui les environnaient et avoir un roi qui sorte devant eux et qui fasse la guerre pour eux. Eh bien, Dieu leur accorda leur demande et ils durent très vite éprouver la folie de leur désir. Leur roi faillit complètement et ils durent apprendre que c'était un mal et une chose amère que d'abandonner le Dieu vivant pour s'appuyer sur un appui humain. Le résultat de l'exploration. Et Moïse les envoya pour reconnaître le pays de Canaan et leur dit : Montez de ce côté par le midi, et vous monterez dans la montagne, et vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des camps ou dans des villes murées, et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez du fruit du pays. Or, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et reconnurent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, quand on vient à Hamath. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol, et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin, et ils le portèrent à deux au moyen d'une perche, et des grenades et des figues. On appela ce lieu-là torrent d'Escol, à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Et ils allèrent et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des fils d'Israël au désert de Paran, à Kadès. Et ils leur rendirent compte ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent le fruit du pays. Et ils racontèrent à Moïse et dirent : Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Versets 18 à 28. C'était la confirmation la plus complète de tout ce que l'Éternel avait dit sur le pays, le témoignage de 12 hommes quant au fait que le pays découlait de lait et de miel. 12 hommes avaient été réellement dans le pays. Ils avaient mis 40 jours à le parcourir. Ils avaient bu de ses sources et mangé de ses fruits. C'était un fait parlant. Quelle aurait donc dû être pour la foi la conclusion à tirer ? Que la même main qui avait conduit 12 hommes dans le pays pouvait y conduire toute l'assemblée. Mais hélas, le peuple n'était pas gouverné par la foi, il l'était par l'incrédulité. Et les espions eux-mêmes, ces hommes qui avaient été envoyés dans le but de rassurer et de convaincre le peuple, tous, sauf de brillantes exceptions, étaient sous l'influence de l'incrédulité qui déshonore Dieu. La fin ne fit que manifester le véritable état du cœur du peuple. L'incrédulité dominait. Le témoignage était assez clair. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Le pays était bien ce que Dieu avait dit. Les espions eux-mêmes en étaient témoins. Mais ils ajoutent : Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Verset 29. Il apparaît toujours un seulement lorsque l'homme est en jeu et que l'incrédulité est à l'œuvre. Les espions incrédules virent les difficultés. De grandes villes, de hautes murailles, des géants. Ils virent toutes ces choses, mais ils ne virent pas l'Éternel. Ils regardèrent aux choses visibles plutôt qu'aux invisibles. Sans doute les villes étaient grandes. Mais Dieu était plus grand. Les murailles étaient hautes, mais Dieu était plus haut. Les géants étaient forts, mais Dieu était plus fort. C'est ainsi que la foi résonne toujours. Elle va de Dieu aux difficultés. Elle commence par lui. L'incrédulité, au contraire, part des difficultés pour aller à Dieu. Elle commence par les difficultés. C'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas qu'il nous faille rester insensibles aux difficultés ou être insouciants. Ni l'insensibilité, ni l'insouciance ne sont de la foi. Il y a des personnes nonchalantes qui semblent traverser la vie en ayant pour principe de prendre les choses par le bon côté. Ce n'est pas la foi. La foi regarde les difficultés en face. Elle voit très bien le côté pénible des choses, mais elle introduit le Dieu vivant. Elle regarde à lui et s'appuie sur lui. Tout, pour elle, découle de lui. C'est là que se trouve le secret de sa puissance. Elle possède la conviction calme et profonde qu'il n'y aura jamais, pour le Dieu Tout-Puissant, une muraille trop haute, une ville trop grande, un géant trop fort. Elle donne à Dieu sa vraie place. Aussi élève-t-elle l'âme complètement au-dessus des influences extérieures, de quelque nature qu'elle puisse être. C'est elle qui animait Caleb quand il disait « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Verset 31. Hélas, la grande majorité des espions n'étaient pas plus gouvernés par cette foi vivante que les hommes qui les avaient envoyés. Aussi, Caleb fut-il réduit au silence par les 10 incrédules. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. » Verset 32. Le langage de l'incrédulité est complètement opposé à celui de la foi. Celle-ci, regardant à Dieu, dit « Nous sommes bien capables de le faire. » Celle-là, regardant aux difficultés, dit « Nous ne sommes pas capables. » Comme il en fut alors, ainsi en est-il encore maintenant. Les yeux de la foi, étant toujours gardés par Dieu, s'élèvent au-dessus des difficultés. Les yeux de l'incrédulité sont remplis des choses extérieures et ils ne discernent pas Dieu. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. » Versets 33 et 34. Pas un mot sur Dieu. Il est entièrement oublié. S'ils avaient pensé à lui, s'ils lui avaient comparé les géants, alors peu aurait importé qu'ils soient eux-mêmes comme des sauterelles. Lecteur, Dieu est-il la réponse à chacune de vos questions? Est-il la solution de chacune de vos difficultés? Connaissez-vous la puissance rassurante qu'il y a à se reposer entièrement sur lui ?